Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Électrique, hybride, essence, diesel et GPL. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Découvrez Renault Arkana Mild Hybrid, maintenant disponible en occasion dès 199 euros par mois. Arkana Business Mild Hybrid, 140 EDC d'occasion. LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer 4 000 euros. Offre à particulier jusqu'au 30 juin, si accordiaque, selon stock disponible, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
RMC, Buzzer Time, Pierre Dorian.
Buzzer Time, votre rendez-vous basket tous les lundis soirs, 21h, 22h, avec une Dream Team que je trouve un peu assoupie ce soir. C'est pourquoi ? C'est parce qu'il n'y a pas de JP Elite ce week-end ? C'est quoi l'histoire, messieurs ?
Non, parce qu'on là, on vient de regarder le match d'équipe de France qui n'était pas non plus, qui était un petit peu soporifique, tant la France a dominé la Bulgarie, donc on s'est un petit peu endormi, mais on va retrouver de la patate, Pierrot.
Ah, je te préfère comme ça. Salut, David.
Ça va ?
Très bien, et toi ?
Ouais, très bien.
Pareil, tu t'es laissé assoupir devant le match d'équipe de France ?
Non, parce que Stephen Brun a toujours un commentaire à faire, donc il fait la...
Souvent, voilà. Souvent très pertinent.
Toujours pertinent.
Fred,
bonsoir.
T'es en forme ?
Ouais, ça va, tranquille.
La France vient de battre la Bulgarie. Alors, la qualif pour la Coupe du Monde 2019 était déjà en poche. Et on va avoir le sélectionneur d'ici quelques minutes en direct dans le locker room. On sera en direct du vestiaire d'équipe de France. Ça ne peut pas mieux tomber. Au programme également, quelles ambitions pour l'ASVEL en Euroleague ? Maintenant qu'on a tout géré d'un point de vue administratif, voilà, l'ASVEL est en Euroleague. Mais pourquoi faire ? On va en débattre tout de suite avec vous au 32-16 et sur Twitter, bien sûr. Et puis l'actu de la NBA, jusqu'où iront les équipes surprises ? Alors, il n'y avait pas de JP Elite ce week-end, mais il y a quand même un contre un, messieurs. L'actu du basket français, mais pas que ce soir, puisque aujourd'hui, on vous offre le petit quiz du basket histoire de la NBA. 300 questions pour jouer entre amis. Il y a tout niveau, hein. Il y a des choses très faciles et des choses très difficiles. Donc, on a un peu pioché dedans, on va un peu réviser votre culture de la NBA. Pour gagner votre bouquin, rendez-vous sur le compte Twitter RMC de Buzzer Time. Et puis il y a du direct avec la Ligue 2 et la rencontre entre Auxerre et Lorient. Lucien Denis, salut.
Ouais,
Lucien.
Bonsoir Pierre, bienvenue à la Baie des Champs. Les jajaïstes révélateurs, l'orienté comme le titrait le journal local, puisqu'effectivement en être gain de forme depuis un mois, ils veulent concrétiser à domicile. Ils reçoivent un des leaders de cette Ligue 2, puisque Lorient est actuellement en 3ème, se refaire pour la Auxerre et repartir de l'avant. On espère bien sûr que ça va bien se passer. On joue depuis deux minutes à la Baie des Champs, pas de but pour l'instant entre Auxerre et Lorient, 0-0.
Lucien Denis, donc en direct de la Baie des Champs. C'est parti pour l'Euroleague.
RMC, Buzzer Time. Buzzer Time.
Qu'est-ce qu'il va ? Mais qu'est-ce qu'il est parti loin ?
Les news JP Elite.
Alors le club de JP Elite qui est au cœur de l'actualité, c'est bien sûr l'ASVEL qui a obtenu son billet pour l'Euroleague, au moins pour les deux prochaines saisons. Alors ça, c'est déjà une très bonne chose, messieurs. C'est pas une surprise en soi, mais c'est désormais officiel. Deux saisons assurées. Juste en un mot, David, on peut estimer que ça va durer plus de deux saisons, a priori, si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'accro.
S'il n'y a pas d'accro, oui, je crois que beaucoup des espoirs de l'ASVEL d'avoir cette licence à vie ou presque, c'est la salle. C'est la salle. C'est-à-dire qu'en ce moment, ils sont à l'Astrobal. Que,
nouvelle salle est prévue pour la saison,
oui,
2021-2022.
Après, attention à l'ASVEL, parce que je me souviens que déjà depuis le début des années 2000, on parle d'une salle. C'était déjà le grand projet de l'ancien président Gilles Moreton et on ne l'a jamais vu, cette salle. Tony, on peut imaginer qu'il arrive peut-être un peu plus à faire bouger les politiques pour le suivre en expliquant que c'est indispensable pour l'Euroleague. Si jamais il n'y a pas la salle d'ici les deux ans, si on ne voit pas les premières fondations, peut-être que l'Euroleague, et qu'en plus, si l'ASVEL ça se passe pas sportivement, peut-être que l'Euroleague,
donc on a aucune assurance pendant deux ans.
Ils sont mis à laisser pendant deux ans, ils ont intérêt à montrer pas de blanche.
Rappelons que l'Euroleague, c'est la plus grande compétition de clubs en Europe, on peut dire l'équivalent de la Champions League pour le foot, mais que c'est une ligue privée et que donc on ne peut y participer que sur invitation.
Non. Semi-privé.
Non, parce que déjà, si jamais...
Le champion de l'Adriatic League est automatiquement qualifié. Donc c'est pour ça que c'est semi-privé. Il y a des invitations permanentes. Il y a des champions de certains pays qui peuvent y accéder.
Du moins pour un club français. Il n'y a pas d'autre solution.
Si. Monaco gagne l'Eurocup cette année. Ils y sont l'année prochaine. Voilà. Et tu as deux clubs français en Euroleague.
Le vainqueur de l'Eurocup en Euroleague automatiquement.
Oui. Très bien. Et Monaco peut gagner l'Eurocup ?
Why not, my friend ?
Pourquoi pas ? Pourquoi
ça
pas. Qu'est-ce qui se passe
pas favori,
mais outsider.
Qu'est-ce qui se passe si l'ASVEL gagne l'Eurocup?
Ben, c'est son finaliste qui aura la wildcard.
Bonne question.
Forcément, à mon avis, c'est
pas.
ça. Je suis pas sûr qu'il donne forcément un club français, mais par contre, il donne un club finaliste, à mon avis.
Alors, toutes ces questions-là, on les a déjà évoquées longuement dans Buzzer Time. Maintenant, on va enfin parler de sport, puisque ça y est, l'ASVEL sera engagé l'année prochaine dans une compétition donc qui va passer de 16 à 18 équipes. Alors, maintenant, avec quelles ambitions? C'est un peu la question qu'on se pose. Est-ce que ce sera pour faire de la figuration? Est-ce que, à terme, à long terme, évidemment, l'ASVEL peut être un prétendant pour gagner cette compétition avec un budget qui tourne autour de 9 millions d'euros quand les plus riches sont à 4 fois plus, 5 fois plus même pour le CSKA Moscou qui selon les saisons varie entre disons 38 et, ouais, et 45 c'est millions d'euros.
Ouais, c'est budget no limit plutôt, hein, on ne sait pas exactement combien il y a.
Pour moi l'Euroleague c'est un peu une compétition à deux vitesses. On sait que...
Comme dans la cour d'école, non?
Exactement, comme dans la cour d'école. Voilà, je vais pas refaire la même analogie que ce que j'ai fait sur l'émission télé. Il y a des équipes historiques qui sont archi puissantes, qui font d'ailleurs partie du board, hein. C'est eux qui dirigent aux côtés de Jordi Bertomeu et évidemment l'Euroleague. Et ces clubs-là, ils sont intouchables. Il y en a une demi-douzaine. Il y en a pour qui ça se passe un peu moins bien depuis quelques saisons. Je pense notamment au Maccabi Tel Aviv. Mais dans l'ensemble, les grands noms prestigieux, on les connaît. Ils sont toujours là. Et quand vous avez les quarts de finale, il y a 8 places, eh bien, il reste plus qu'un spot ou deux, dont pour des équipes un peu fortes d'Espagne, par exemple, pour essayer de se glisser comme Kaunas l'année dernière. Mais l'ASVEL ne peut en aucun cas prétendre à jouer les quarts de finale, sauf toujours le théorème du Jean-Claude Duss, c'est-à-dire on oublie qu'on n'a aucune chance et on ne sait jamais sur un malentendu, ça peut peut-être marcher.
Ouais, après.
Carrément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre vision que celle-là.
Ah, non. Après, l'année prochaine, ça va être faire des coups. Montrer à Jordi Bertomeu que de temps en temps, on est capable de taper un gros, comme Strasbourg, il y a quelques années.
Et pas prendre de raclée, jamais prendre de raclée. Et toujours dans les matchs, un peu.
Montrer qu'on est légitime et ne pas terminer à l'une des deux dernières places. Et si déjà l'ASVEL avait, je vais vous dire quoi, 7 victoires, ce serait formidable.
J'allais dire 10, moi.
Ah, 10, c'est génial. 10, c'est génial.
C'est vraiment, vraiment bien.
10 victoires, 24 défaites. Ça serait magnifique. Ouais, oui. Taper un ou deux gros, comme l'avait fait Strasbourg en tapant le Fener ou le Real. Parce que quand tu bats, vous avez vu le bruit que ça a fait quand Budućnost Podgorica a battu le CSKA Moscou il y a 15 jours. Eh ben, si l'ASVEL tape un Real Madrid à l'Astrobal, ça fera du bruit.
Mais
dans
on
l'Europe
se rappelle
entière,
quand Nanterre avait battu Barcelone, on s'en rappelle encore maintenant.
Quand t'as un petit, tu tapes un gros, ça fait un... Et Jordi Bertomeu, il se dit, waouh, l'ASVEL a tapé le Real Madrid, c'est chaud quand même. Et ça, c'est des petits.
Je crois qu'il dit ça, Jordi. Alors après, en termes de développement, est-ce que on peut estimer qu'à 2-3 saisons, le niveau de l'ASVEL change radicalement?
Non, parce que on sera toujours attrapé par, cette fiscalité qui plombe le sport français. Regarde, au foot, c'est exactement pareil, ou presque, mis à part pour
ton gilet jaune, toi,
pour le PSG. Non, je suis désolé.
Mais c'est vrai, au niveau charge sociale.
Ça fait des années. Et parce que le basket, n'est pas un sport majeur absolu en France. Et donc, les grandes sociétés du CAC 40 préfèrent aller filer au rugby parce qu'après, ils vont aller faire des soirées sympas, etc. plutôt qu'au basket. Et
il
n'y a pas
Alors qu'au basket, il y a aussi des soirées sympas.
Personne ne le sait.
On le sait moins.
Alors, cher président du CAC 40, investissez à l'ASVEL qu'on puisse aller au Final Four.
Mais après, David parlait de la salle. Là, le budget va passer à 10, 11. La salle, ça pourra faire passer un cap supplémentaire, plus d'entrées, des capacités d'accueil pour bien recevoir justement ces sponsors et ces VIP et peut-être signer des contrats et des investisseurs. La salle, c'est l'étape suivante. Si vous voulez grandir et pouvoir exister un peu plus dans cette compétition et avoir un plus gros budget, c'est la salle.
Alors, je suis d'accord. Mais il faut après relativiser et surtout nuancer tout ça. Pour prendre un exemple, le club de Milan, ça fait 2 ans qu'ils font rien du tout. Enfin, cette année, ça commence à marcher. Alors que ces 2 dernières années, ils avaient 25 millions d'euros de budget. C'est-à-dire que l'ASVEL n'aura jamais 25 millions d'euros de budget. Ou alors, dans une autre époque...
L'ASVEL n'aura jamais Giorgio Armani comme sponsor principal.
Et donc, j'allais venir avec Armani derrière qui finance tout. Et avec 25 millions de budget...
C'est pas gage de réussite, la preuve. Si on les dépense mal, ça veut pas dire que forcément.
Tu peux prendre l'exemple inverse avec le Žalgiris qui va loin. Mais on en revient à le Žalgiris, c'est ponctuellement, tu vas faire
le premier forcément. C'est leur seule chance. On peut pas
le nombre
durer.
D'équipes,
le tableau que tu dresses là, David, il est.
Un peu sombre, hein.
Non, il est pas. C'est pas qu'il est
non,
sombre.
Réaliste.
Il est réaliste et du coup. sans ambition.
Alors non, mais Pierre, je veux pas.
De fait, disons.
Je veux pas être négatif. Alors, mon discours.
Quel est l'intérêt d'y aller alors pour l'ASVEL?
Justement, voilà, j'aurais pas que mon discours soit complètement négatif. Je vais et sans dire le contraire, c'est importantissime qu'il y ait un club français, que ce soit l'ASVEL et on espère qu'un jour ce sera Strasbourg ou un autre en Euroleague. Pourquoi? Parce que le championnat de France de basket, quand vous avez deux clubs de Jeep Elite face à face, vous allez intéresser uniquement le petit microcosme et franchement, il est pas bien étendu. Quand vous avez une ligue qui est pour tout le monde l'équivalent de la Ligue des Champions et que vous avez des marques, parce qu'à ce niveau-là, c'est des marques, hein, le Barça, le Pana, le Real Madrid, c'est des marques. Et si jamais votre club français eh bien, il réussit à gagner quelques matchs, à faire tomber un gros, etc. Eh bien là, vous ne toucherez plus seulement l'amateur de basket, mais vous toucherez l'amateur de sport au sens large, et vous multiplierez, et je n'exagère pas, vos audiences, moi je parle pour nous diffuseurs aussi, puisqu'on a les droits, vous pouvez multiplier vos audiences par 10 entre le championnat de France et l'Euroleague, parce que tous les amateurs de sport, quand ils vont voir « Oh, l'ASVEL, ils ont battu le Barça la semaine dernière », eh bien ils auront envie, à la mi-temps d'un match de Ligue des Champions de foot qui aura lieu le même soir, la semaine d'après, de se dire « Tiens, qu'est-ce qu'ils font l'ASVEL ?» Et ça part comme ça. Ça part comme ça.
À court terme, quel joueur l'ASVEL peut recruter? Edwin Jackson, on disait la semaine dernière.
Après, ils ont vraiment comme ambition de faire une équipe française.
Pourquoi pas?
La French Team, c'est-à-dire 7-8 joueurs français.
C'est plutôt une bonne solution,
là,
au contraire.
Là, ils ont des joueurs sous contrat. Charles Cahudi, Théo Malédon, Amine Noah. Pourquoi pas faire revenir Paul Lacombe? Pourquoi pas faire venir Yacouba Ouattara? Pourquoi pas faire venir Edwin Jackson? Donc, si t'as 6-7 gros joueurs français.
À Matembaye.
Et à Matembaye aussi, oui. Et après, tu prends 3-4 gros étrangers et tu tournes à 11-12 comme ça. C'est comme ça que tu arrives à t'en sortir, parce que tu es obligé de gonfler l'effectif, parce que c'est quand même 34 matchs l'Euroleague en plus de la Jeep Elite. Donc tu te rends compte, ils vont se taper parfois 3 matchs dans une semaine. Donc tu es obligé d'avoir un effectif pléthorique, sinon tu finis sur les jantes.
3 matchs dans une semaine, c'est-à-dire si tu comptes
parce que certaines semaines, Pierre, il y a deux journées d'Euroleague. Ils jouent en Euroleague mardi, mercredi, puis jeudi, vendredi. Mm-hmm. Et ça n'empêche pas d'avoir le championnat le week-end.
Et parfois, la JPI, tu auras deux matchs dans la semaine aussi. Donc, et on sait que le calendrier.
Ça, c'est jouable. C'est jouable. C'est juste qu'il faut de l'effectif, quoi.
Il faut de l'effectif. Et le problème, c'est que la semaine
prochaine. Mais par exemple, Grand Canaria, qui fait l'Euroleague cette année, souffre énormément de ça. Ils s'en plaignent.
Et ils perdent des matchs.
Finalement, est-ce que c'est une bonne solution d'être allé en Euroleague? Pour Grand Canaria, je parle encore pas de l'ASVEL.
Ils sont au large de l'Afrique, donc c'est quoi?
Mais c'est très compliqué pour eux, parce que finalement, ils sont obligés de se résoudre à perdre des matchs en championnat, parce qu'ils n'ont pas l'effectif suffisant.
L'ASVEL n'a pas les moyens des grands clubs. Le CSKA Moscou, on joue demain à Istanbul. Ok, rendez-vous à 16h à l'aéroport, avion privé, hop, t'embarques, t'as 3 places, t'as 3 mètres pour mettre tes jambes, tu dors, t'arrives à Istanbul, tu gagnes ou tu perds, hop, tu repars direct.
Tu gagnes souvent quand même, quand
à 1h du matin, t'es chez toi, tu dors. C'est des conditions de déplacement optimales.
Presque NBA, les conditions de déplacement.
N'aura pas les moyens de se payer un jet privé, donc ça, si, c'est à prendre en compte.
Derrière le CSKA Moscou, les autres grosses écuries ont des moyens du même ordre ou c'est quand même en dessous?
Real Madrid, c'est 30 millions.
Pareil. Dis-moi, regarde, quand je te parle des historiques, en plus c'est des noms qui parlent à tout le monde. Barça Real, Pana Olympiakos, CSKA, en Turquie, ils sont blindés de fric, Fenerbahçe FS, déjà t'as quasiment tout, et alors sans compter Milan, parce que eux c'est plus les historiques, t'as quasiment tous tes quarts de finaliste, donc après t'as juste un trou de souris pour, sur un malentendu, essayer de se qualifier.
Donc si un jour l'ASVEL atteint les quarts de finale, ce sera déjà un exploit.
Ce sera fantastique.
Formidable.
Exceptionnel, Pierrot.
Et en aucun cas, ce ne sera sur l'une des deux premières années. Parce que, on le sait, on l'a vécu quand il y avait, alors, problème, c'était aussi le problème du basket français. Chaque année, au début des années 2010, comme c'était à chaque fois un champion différent, c'était à chaque fois un club français différent qui y allait. Et il y a une période, excusez-moi d'être trivial, il y a toujours une période de dépucelage. C'est-à-dire que vous arrivez à la première année, vous prenez la grêle, et c'est seulement la deuxième année quand votre équipe a un vécu, quand tout le monde a pris la mesure de ce qu'est l'Euroleague, que vous pouvez commencer à espérer exister. Tu vois? Parce que la première année, tu sais, de toute façon, tu vas ramasser.
Tu découvres l'intensité, le niveau de jeu, les déplacements, la fatigue.
Est-ce que ça va faire obligatoirement progresser sportivement l'ASVEL?
Oui,
obligatoirement.
Oui, bien sûr. Et on espère le basket français par ce biais aussi.
Il risque de devenir intouchable en France.
Quand tu joues contre des mecs meilleurs que toi, tu progresses
par quelle mécanique il deviendrait intouchable en France? Par les recrues qui viendraient?
Bien sûr.
Simplement par
les recrues et par le fait d'affronter les meilleurs d'Europe. Donc forcément, ils progresseront aussi.
Ce sera pas l'effectif du Real Madrid avec ses 15 joueurs, mais ce sera un très bel effectif et de toute façon, un effectif hors norme pour le championnat de France.
C'est-à-dire que... déjà 7 internationaux dans ton équipe, plus 3 ou 4.
Mais en même temps, c'est ce qui arrive dans la plupart des championnats, hein, mis à part le championnat français. C'est-à-dire que tu as toujours une ou deux locomotives qui sont bien au-dessus et les autres qui essaient de suivre.
Le Fener, le week-end, Obradovic, il fait les entraînements de 2h30 le matin du match dans la Ligue domestique parce qu'il sait que le soir, il va gagner 30 ou 40. Il faut qu'il fatigue les mecs le matin à l'entraînement.
Et encore en Turquie, il y a quelques clubs qui tiennent la route. Le Žalgiris Kaunas, c'est le meilleur exemple. Žalgiris Kaunas, ils mettent des 45 un week-end sur deux.
Anecdote racontée par Stephen, vrai ou enjolivé?
Non, vrai. Sergio Obradovic.
Non, mais c'est aux deux autres que je demande. Hein. Donc c'est quoi le Fener, tu dis?
Ouais, le Fener.
Le coach du Fener fatigue ses joueurs pour pas que les matchs soient trop faciles. Ouais.
Mais pour qu'il continue à travailler aussi, parce que
c'est Valérie Garnier, sélectionneur de l'équipe nationale féminine, qui coach Fenerbahçe aussi, qui m'a dit ça, un matin, je vais voir l'entraînement, et il s'entraîne 2h30, strappé 55 tout terrain, et je vais voir le coach, je dis, mais c'est un peu dur ça. Il me dit, mais ce soir, c'est équipe pourrie de championnat, donc j'ai besoin de fatiguer mes joueurs, parce que je sais que ce soir, ils vont pas se fatiguer.
Quelles ambitions pour l'ASVEL en Euroleague? Donc si on résume, déjà 10 victoires sur 34 matchs, ça serait beau.
Et tu sais
pour
quoi?
La première saison.
Même au-delà des victoires, que les matchs à domicile se tiennent. Alors, il y en a un ou deux.
Que ce soit dur de venir gagner.
Exactement. Et comme ça, déjà, nous, on a une histoire à raconter. Et comme ça, tu auras des fins de match à suspense après.
Et puis chaque match devient intéressant.
Tu tiens le Real Madrid. Tu tiens le Real Madrid chez toi, à l'Astrobal, jusqu'au bout. Si tu t'inclines, entre guillemets, bien sûr, c'est pas grave. Parce que tu auras vu un beau spectacle.
Et tu auras montré
une belle image. Tu vois, c'est pour moi, c'est ça le premier pari, déjà.
Par contre, pour conclure, on est d'accord que ça peut pas être ça. Une vision à long terme.
Non.
Qu'on ne peut pas accepter ça longtemps. Non, et même un public ne peut pas l'accepter longtemps.
Ils vont être contraints de l'accepter un certain temps. Hein,
On est tellement frustrés d'Euroleague qu'on acceptera, entre guillemets, tout les premières années.
Faut pas croire qu'on va arriver et tout casser. Je veux dire, être le dernier des tarés. Je veux dire, déjà, prenons la mesure de ce que c'est. Que Tony Parker arrive enfin à lancer cette salle qui va générer d'autres revenus. Et après, alors, on sera, entre guillemets, adopté à temps plein par l'Euroleague et son board avec tous les multimilliardaires. Et à ce moment-là, petit à petit, mais faisons petit à petit.
Buzzer Time sur RMC, l'actu de la NBA arrive. D'abord, le direct, c'est la Ligue 2. La rencontre entre Auxerre et Lorient, c'est un match qu'on suit avec Lucien Denis. Ça en est où, Lucien?
Et on joue depuis 17 minutes à la Baie des Champs. Pas de but, mais une belle équipe de la JO Auxerre. Franchement, elle fait plaisir ce soir avec une opportunité à la 12e. Un débordement côté gauche de Julien Ferré, le centre parfait pour Digimon, repris par l'ancien attaquant de Clermont. Et là, eh bien, la parade d'Ilan Mélier, le gardien de l'équipe de Lorient, voilà, je vais y arriver, et qui repousse l'essai des Auxerrois. Une belle équipe de la GOCR, qui est en train de se remettre un petit peu de ses victoires et de ses résultats à l'extérieur, en espérant bien sûr concrétiser face à Lorient, qui pour l'instant, eh bien, tient le coup, puisque le score après 17 minutes est toujours de 0 à 0.
Je vous rappelle que d'ici une demi-heure, on sera en direct avec Vincent Collet, le sélectionneur de l'équipe de France, qualifié pour la Coupe du Monde 2019. Là aussi, il y a beaucoup de choses à voir. Quel joueur à la Coupe du Monde, notamment, le rôle de Boris Diaw, évidemment. Et puis, bien entendu, vos questions aussi au 32-16 si vous voulez interpeller le sélectionneur. Dans un instant, c'est l'actu de la NBA. On va parler de ces équipes surprises. Jusqu'où peuvent-elles tenir? Cette fois-ci, les gars, j'écoute, j'enregistre et je note. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h, Buzzer Time. Pierre Dorian.
Buzzer Time sur RMC tous les lundis soirs 21h, 22h avec la Dream Team, Stephen Brun, Frédéric Weiss, David Cosette. Le point sur Auxerre Lorient en Ligue 2. Le temps, le score, Lucien Denis.
20 minutes de jouer, pas de but entre Auxerre et Lorient, 0 à 0.
L'actu de NBA, c'est parti.
RMC, Buzzer Time. Buzzer Time. Les news NBA.
Alors tout se passe pas comme prévu en NBA cette saison. Denver et les Clippers dominent la conférence Ouest. Milwaukee et Détroit respectivement deuxième et quatrième à l'Est. Boston à l'inverse est sixième. Houston c'est la cata et que dire de Utah qui est avant-dernier à l'Ouest. Alors, est-ce que c'est au quart de la saison? Pourquoi tu me regardes déjà du coin de l'œil?
Je pensais que t'allais pondérer un petit peu le classement du Jazz, vu qu'on en a parlé en off. Tu m'as dit,
vous êtes là pour ça. Hein.
Je m'attendais à un petit peu de pondération de ta part. Donc, je vais devoir m'en occuper.
Un peu de nuance.
Vous êtes là pour ça, messieurs. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça peut durer, en tout cas, toute la saison? On est au quart de la saison. Alors, encore une fois, le quart, c'est-à-dire, on a joué 22 matchs en gros. C'est-à-dire qu'il reste beaucoup de temps pour établir la situation. mais on peut plus dire que c'est un début de saison. On peut plus dire que ces statistiques ne valent rien dire. Est-ce qu'on est au moins d'accord là-dessus?
Bah, il y a pas beaucoup d'écart quand même. C'est-à-dire que ça se remonte vite. En plus, on sait en NBA que tu peux avoir des équipes qui peuvent faire des séries de 10 victoires. Tu vas faire une série de 10 victoires, tu vas voir que tu vas tout de suite. Enfin.
Mais c'est tellement dans un mouchoir de poche, c'est clair que.
Et en plus, c'est dans une période courte, donc.
Alors, on peut prendre au cas par cas.
Sinon, on peut faire ce débat-là tous les deux semaines. Hein.
Parlons du Jazz.
Oui, mais on peut pas le faire chaque année.
C'est avant-dernier.
C'est ça la différence aussi.
Utah est avant-dernier avec 11 victoires. Dallas est 8e avec 11 victoires, moins de défaites. Le Jazz est 14e parce qu'ils ont plus de défaites. La conférence Ouest est tellement resserrée que David l'a dit, une série même pas de 10. Je dis, tu fais une série de 4, 5.
D'accord. Hop, est-ce que Utah aujourd'hui est capable de faire une série de 5 victoires?
Bien sûr que oui. L'année dernière, ils ont fait une fin de saison. C'était la meilleure équipe de NBA sur la fin de saison. Il suffit qu'ils fassent ça là, à n'importe quel moment.
Non, mais surtout, qu'est-ce qui est le plus important en NBA? C'est la fin. Et la plupart des équipes commencent à jouer en février, hein. Vraiment.
Après l'All-Star Break, c'est là que ça compte.
Après l'All-Star Break, c'est là que ça compte. Je suis d'accord.
Non. T'as aussi des équipes qui, à cette période de la saison, sont déjà en train de gérer leur effectif, hein. Oui. Excusez-moi, hein.
Qui?
Bah, les Spurs, autant de la grandeur des Spurs.
En décembre.
Ils ne jouaient pas tous les matchs au mois d'avril, hein. À cette époque, après l'All-Star Game.
D'accord. Mais ce qui explique aussi, c'est que des petites équipes profitent de ce début de saison, moins bonnes des grosses.
Tu penses à qui?
Je pense à Denver, je pense à Memphis, je pense aux Clippers, et profitent qu'il y a des équipes qui sont pas encore au point, où il y a eu des problèmes de blessures. Eux, ils sont prêts, ils grappillent des matchs, et ils caracolent en tête de la conférence Ouest. Mais moi, je suis persuadé que, je te dis pas que Denver va finir hors des playoffs, ils vont y être dans les playoffs, mais ils vont pas être premiers de la conférence Ouest.
Alors, Golden State récupère Stephen Curry, Draymond Green toujours blessé, eux, a priori, on sait pas trop de soucis.
Draymond Green, encore 3 matchs.
On sait pas trop de soucis pour Golden State, on est d'accord?
Tu t'es déjà fait du souci pour les Warriors, toi?
Écoute, en tout cas, je m'attendais pas à ça. Alors après,
mais il semble effectivement quand même un peu moins.
Les joueurs vont se blesser évidemment.
Mais...
Oui, mais
bah, avec les blessures, mais tout ce qui.
Pour moi, la plus grosse interrogation, on en a parlé. Attendons de voir ce que fera DeMarcus Cousins déjà.
Est-ce qu'il va
s'intégrer dans l'équipe ou pas? Est-ce qu'il va mettre le bazar ou pas?
Il devrait rejoindre en 2019
pour éviter qu'il mette le bazar. Il a dû le cadrer déjà plein de fois avant même qu'il ait mis ses pieds à l'entraînement. Mais voilà.
Alors à l'inverse, est-ce qu'on peut considérer que les Lakers qui sont cinquièmes, c'est en l'occurrence une bonne surprise? Est-ce qu'on les attendait
c'est
si haut?
C'est une belle surprise.
Peut durer ça?
Je sais pas, ça va aussi entre
le Brown pour forcer tout le monde sur les épaules.
Après les Brown est monstrueux, les mecs autour de lui commencent à se mettre au diapason, Brandon Ingram est solide. Kentavious Caldwell-Pope aussi fait des bons matchs, mais on parle de LeBron James, il a amené les Cavs en finale NBA avec 8 pingouins autour de lui. Donc pourquoi pas aux Lakers avec des joueurs plus référencés? Moi je suis pas surpris. Ça reste LeBron James. Alors LeBron James, c'est une année de transition parce qu'il y a des jeunes, mais une année de transition pour LeBron James, c'est playoff. Tout simplement.
Si on considère Boston, là c'est peut-être presque le plus surprenant, non? Boston
qui vient de gagner 3 matchs de suite, hein. Donc ils sont peut-être relancés enfin.
Ouais, après il y a un gros souci aux Celtics, c'est qu'ils ont fini la saison l'année dernière formidablement bien en playoff sans Kyrie Irving. Donc ça veut dire qu'il y a des joueurs qui ont pris plus de responsabilités,
qui sont vus
pousser des ailes, et la nouvelle saison a repris. Kyrie Irving est revenu, c'est Kyrie Irving le patron. Donc il y a des mecs qui ont été un peu calife à la place du calife en playoff.
Ils comprennent pas ce qu'il leur arrive.
C'est ce qu'on avait dit l'année dernière, en disant quand tout le monde revient, quand les superstars reviennent, on ne sait pas ce que ça peut donner.
Comme un garçon comme Terry Rozier qui a profité de l'absence de Kyrie Irving, qui a brillé de mille feux en playoff et qui aujourd'hui est un peu frustré parce qu'il joue 15 minutes et qu'il se dit filez-moi des minutes ou je me barre.
Ah c'est is no good alors Terry Rozier.
Exactement, c'est is no good. Et puis il y a Gordon Hayward qui est le star et qui a eu du mal à trouver son plus haut niveau, mais là qui vient de sortir sa meilleure performance avec 30 points, ils ont beaucoup trop de joueurs au Celtics et je serais pas surpris d'un petit trade.
Charlotte en playoff, c'est possible ça? Ils sont 7e pour l'instant.
C'est correct
c'est sans, plus.
Sans plus.
Alors gardons 2 minutes quand même pour parler de Frank Ntilikina dans une franchise qui ne s'en sort jamais pour le coup. C'est pas une surprise que New York soit 12e. Mais alors la surprise c'est le statut de Frank Ntilikina qui n'a fait que se dégrader au point de ne plus jouer. C'est quoi le problème là? C'est quoi l'avenir? Est-ce qu'il faut qu'il s'en aille, qu'il aille à Brooklyn?
Il se barre de là. C'est la pire franchise qui existe pour un garçon qui n'est pas encore formé et abouti pour ce niveau-là.
Et sous les feux de la rampe, c'est la franchise qui est la plus médiatisée avec Los Angeles.
Donc c'est hyper compliqué. Ça fait 50 ans qu'ils n'ont pas formé un joueur, les Knicks. Depuis quand tu t'as entendu parler, ah oui, ils ont drafté un mec, ils l'ont formé, putain, c'est bien ce que font les Knicks. Non, les Knicks, c'est des mangeurs de ballons, il n'y a aucune stabilité, le coach, il faut qu'il gagne quelques matchs, donc il envoie des Tim Hardaway Junior qui pensent que c'est une superstar, qui shoot 20 fois, des Lonzo Trier.
Il faut qu'il s'en aille.
Il faut qu'il se barre.
Le dernier pari RMC pour Stephen Brun, c'est est-ce que c'est l'Asvel qui sera championne de EuroLeague ou les Knicks qui seront champions NBA en premier?
Ça serait une bonne question moyenne dans le
Moscato Show. Tu répondrais quoi? L'Asvel peut-être, hein.
Oui. Bah, je sais pas, parce qu'un biais, tu dis, c'est un choix de draft qui permet de rééquilibrer.
Pour revenir sur Frank Ntilikina, faut qu'il aille, au Nets, ce serait génial. Déjà, pourquoi? Pas cher le déménagement.
Ouais.
Et puis son coach.
Je pense qu'il a les moyens de se payer le déménagement.
Et puis son coach. Il pourra communier avec lui. Bon, Kenny Atkinson, nous, on a une part d'affection pour lui parce qu'on le connaît bien et tout ça. Il est français, il était meneur, etc. Et qu'il a eu Nets.
Après, moi, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis c'est la pire franchise, peut-être, mais.
Pour un jeune garçon.
Demande à Fred Pierre, déjà pour une Summer League, c'est chaud. Il faut corriger un truc sur Frank Ntilikina.
Luka Doncic, il est arrivé en NBA, il a marché sur l'Europe entière. Frank Ntilikina n'était pas un joueur dominant de Deep Elite. Il a été drafté pour son potentiel.
Il devait continuer à être formé.
Et son futur.
Il devait s'occuper de lui encore.
Continuer à être formé, à travailler. Et les Knicks n'est pas une franchise pour ça.
Non, mais laisse-moi juste te donner un argument. Pas forcément pour te contrer, juste pour que tu m'expliques. Quand tu as été choisi au premier tour par une franchise qui compte sur toi, qui te met quand même dans des conditions relativement confortables pendant au moins une saison.
Non, rien n'est confortable.
Est-ce que finalement,
tu joues pas.
Il n'a pas déjà laissé passer sa meilleure chance. Je dis pas qu'il n'y arrivera pas, mais est-ce que la suite ne peut pas être que plus difficile?
Parce qu'il a une équipe catastrophique, il a que des mecs égoïstes. Le seul vrai joueur de basket que les Knicks ont, c'est Kristaps Porzingis qui s'est pété au milieu de saison l'année dernière et qui est parti et là qui est pas là. Et la vraie, il y avait une vraie connexion entre Frank Ntilikina et Kristaps Porzingis.
Je suis désolé, mais Dallas, il n'y a rien non plus. Donc
Dallas, il n'y a rien non plus.
Arrête de me dire ça.
Dallas, il n'y a rien non plus.
Ce que je veux dire, c'est par rapport aux grosses franchises de la NBA. Ne me dis pas qu'un joueur qui arrive dans une franchise où il n'y a pas beaucoup de bons joueurs n'a pas une opportunité.
Ça n'a rien à voir.
Non, mais c'est illogique ce que tu dis. Quand tu arrives dans une équipe où il n'y a pas beaucoup de talent. Eh ben si, tu vois, tu en as. Pour s'imposer, c'est quand même plus simple. Tu vas pas me.
Mais quand t'es surexposé dans une franchise hyper médiatisée et que t'es pas encore suffisamment formé pour,
c'est pas un scoreur.
Non mais si t'es pas encore formé pour,
Cet aspect-là, je ne le conteste pas.
Pour faire jouer 35 minutes et qu'ils mettent 20 points, et ben alors c'est une erreur de casting de Phil Jackson. Il s'est trompé tout simplement.
Non, ça serait vrai. Phil Jackson après il est parti et que ce qu'il voulait faire, ils sont pas partis sur le même truc. Dans ces cas-là, il valait mieux Elie Okobo au Knicks et il aurait mieux réussi.
Ah oui, carrément, bien sûr, bien sûr.
Un mec capable de shooter 15 fois en 10 minutes, voilà. Oui, Nicobo, c'est très bien.
Ntilikina, je remets pas en cause entre guillemets l'investissement ou le talent de Frank Ntilikina. Ce que je veux dire, c'est que moi j'ai l'impression quand même que sa première chance est passée. Son option numéro 1 pour réussir en NBA est passée.
En fait,
parce qu'aujourd'hui, il va être transféré, certainement qu'il va être pris dans un échange, je sais pas où. En tout cas, je ne vois pas aujourd'hui sur cette saison en cours la franchise qui va l'accueillir, lui dérouler le tapis rouge comme l'ont fait les Knicks.
En fait, Pierre, toi, tu c'est vois par rapport à son rang de draft, et en fait, c'est quelque chose de formidable et en même temps, c'est terrible pour lui d'être drafté 8. Parce qu'effectivement, après derrière, il y a une énorme pancarte marquée 8 dans son dos, et c'est vrai que c'est pas forcément simple parce que si tu nous entre guillemets, on pouvait imaginer avant, pour reprendre l'exemple de Liokobo, qui est choisi de mémoire 31 ou un truc comme ça, début deuxième tour par, 31, par Phoenix, ouais. On se doutait qu'Eliokobo, tu les mets tous les deux sur, dans les mêmes conditions, etc., qu'il allait mettre plus de points que Frank Ntilikina, et qu'il allait être, entre guillemets, opérationnel plus vite que Frank Ntilikina.
Si les Knicks n'ont pas vu, ça connaîtra en basket.
Donc on en revient à ce sport d'égoïste, c'est mettre des points, parce que David vient d'utiliser ça, mettre des points, plus de points, plus de points. Mais Frank Ntilikina, c'est pas ça, il y a autre chose autour de lui. Les stats défensives, les mecs sont unanimes.
Mais ça, je dis pas le contraire.
Il n'y a pas que des points.
Oui, mais dans une mauvaise franchise comme New York, tu es obligé de marquer des points.
Ben voilà, sauf que lui, c'est pas ça.
Dans une mauvaise franchise, tu es obligé de marquer des points.
Et il y en a 8 autour de lui qui savent faire ça, qui shootent tous les ballons. Et Frank Ntilikina, il est perdu dans ce truc.
Allez, dans un instant, l'actu du basket français, mais pas que, puisqu'il n'y avait pas de Jeep Elite ce week-end. Donc, on va réviser un peu votre culture NBA dans le 1 contre 1. Et ce sera comme la semaine dernière, tous sur Stephen. C'est A que Steph.
Ah, je vais pas jouer toutes les semaines
d'avoir. T'inquiète pas, si tu vas gagner quand même.
Oui.
Allez, à tout de suite, c'est Buzzer Time sur RMC.
RMC, Buzzer Time, Pierre Dorian.
Buzzer Time sur RMC avec la Dream Team, David Cosette, Fred Weiss, Stephen Brun, jusqu'à 22h, tous les lundis soirs, juste avant l'actu du basket français, le 1 contre 1. On va aller voir ce qui se passe entre Auxerre et Lorient en Ligue 2 avec Lucien Denis.
33 minutes de jouer à la Vélechamp, Pierre, toujours pas de but, 0-0, c'est pas faute d'essayer du côté de la Géosserre, elle est bien mieux cette équipe bourguignonne ce soir après ses performances à Metz et au Havre la semaine dernière, mais là en face d'elle, une équipe qui joue aussi la montée en Ligue 1, c'est l'équipe de Lorient qui pour l'instant a bien du mal à s'avancer, mais qui pour l'instant garde ce score de 0-0, on joue à la Vélechamp depuis 33 minutes, pas de but entre Auxerre et Lorient, 0-0.
RMC. Buzzer time. Buzzer time. Le 1 contre 1.
Alors l'actu, non, il y a pas de remix DJ là. Non, parce que t'es 1 contre 2 ce soir. C'est pas le 1 contre 1. Alors l'actu du basket français, mais pas uniquement, puisqu'on vous offre le petit quiz du basket histoire de la NBA. 300 questions pour jouer entre amis. On va vous tester un peu sur ce bouquin, sur l'histoire de la NBA, des choses basiques et des choses beaucoup plus compliquées. Malgré tout, on va démarrer avec le basket français et donc l'équipe de France. Vous avez tous suivi. Donc Amat Mbaye a réussi le meilleur total de points pour une première en équipe de France au 21e siècle, avec 18 points inscrits contre la République tchèque vendredi.
Je la vois arriver gros comme une maison, la question.
À quel joueur succédait-il?
Un mec a mis plus de
qui
points.
Avant lui, non, qui avant lui avait ce record de nombre de points sur une première sélection?
Duquesnoy.
Au 21e siècle. Hein.
Duquesnoy.
Hervé
Rayleigh Bucnell.
Et alors Bucnell, c'est en 1930, hein, donc c'est le 20e siècle. Parce qu'en fait, on a dit que c'était la meilleure perf de l'histoire pour une première sélection. Ce n'est pas le cas, puisqu'il y avait eu des perfs très anciennes meilleures que cela. Donc au 21e siècle, c'est-à-dire en 2000, pas du tout. Mais on commence à se rapprocher un peu.
C'est pas très... Jérôme Bruiseau.
Non, c'est un joueur très connu. Hein. C'est... Vous n'avez pas besoin... d'aller chercher très loin.
Antoine Rigaudot.
En réfléchissant un peu, ça va vous tomber, ça va tomber sous le sens.
Boris Diaw.
Non, mais on se rapproche, c'est pareil.
Tony Parker?
Non.
Nicolas Batum?
Non.
Evan Fournier?
Non, mais si vous réfléchissez...
Comment ça? Frédéric Weitz?
Non. Tu avais marqué combien de points pour ta première sélection, toi?
Si vous réfléchissez, pourquoi tu nous dis ça depuis tout à l'heure?
Réfléchissez. Parce que c'est un joueur...
Effectivement, c'est un cadre de loi des Jérôme Moïseau. Ouais. Fait partie de...
C'est-à-dire que quand il a porté le maillot de l'équipe de France pour la première fois, il était déjà mûr et prêt à mettre des points.
Ah, il travaille.
D'accord.
C'est pas du tout un mec qu'on a vu venir, qu'on n'a pas vu venir quand il est arrivé.
Joachim Noah.
Il a marqué 16 points en 2009 face à l'Autriche. Joachim Noah, le premier point pour David Estrade.
J'ai fait une siphonne brasse. J'ai cité tous les noms.
Non, mais oui.
Donc le premier point, c'est pour David Estrade, qui a déclaré: si je ne peux pas faire les JO en 5 contre 5,
c'est moi, je pense
que c'est David. Hein,
c'est moi.
Jimmy. Bon, vous savez quoi? Moi, je pense que c'est Stephen Brun pour un dixième de seconde, mais j'annule le point. Parce que franchement, c'est impossible à déterminer. Et de toute façon, vous aviez tous les deux la bonne réponse. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus.
Ah si, c'est que j'ai pas le point.
C'était dans Buzz.
C'est ça le souci, gros. C'est ça le gros souci.
Alors, évidemment, je savais que ça allait fuser puisque c'était dans Buzzer la semaine dernière. Est-ce que cette déclaration vous a surpris?
Non, parce que moi, parce que j'en avais entendu parler. Andrew Albici a déjà fait quelques petits tournois 3-3 l'été. C'est une discipline qui peut lui plaire.
En plus, c'est très à la mode. Et oui, ça peut lui convenir.
Convenir. Et puis le poste de meneur de jeu, lui, il a été boudé très longtemps. Hein. Il a passé 7 ans sans avoir été sélectionné en bleu. Au poste de meneur de jeu, il y a pas mal de monde. Et c'est aussi un moyen de participer aux JO.
Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il a quand même peut-être sa place à Tokyo en 2020, avec l'équipe de France à 5?
Oula, difficile.
Est-ce que c'est, c'est possible, quoi?
Mais on sait déjà pas la Coupe du Monde. Alors, Tokyo, c'est ouais, impossible de
Déterminer, là.
Impossible de dire. Okay, ton ami, Franck Nikina, on ne sait pas quel sera son développement. C'est un concurrent sur le poste, par exemple.
On posera la question tout à l'heure à Vincent Collet, qui sera notre invité d'ici une dizaine de minutes. Alors, tiens, toujours l'actu, de la Jeep Elite, cette fois-ci. Quel ancien joueur de NBA vient renforcer la JDA Dijon?
Taren Skinsey.
C'est sans info en même temps.
C'est normal que Stéphane ait marqué le point, vu qu'il avait l'info avant tout le monde, avant même que Dijon communique.
Certes, mais comme il s'est troué dans un premier temps, vous auriez pu
prendre le rebond
offensif.
C'est ça.
Le problème, c'est que pour ça, il aurait fallu être un peu plus saignant.
Taren Skinsey, belle recrue.
Belle recrue,
plus de 100 matchs NBA, il a joué des matchs de Euroleague avec le Partizan et le Fenerbahçe Istanbul. Et je suis content pour cette équipe de Dijon, capable d'attirer un
sélectionneur. C'est surprenant, mais beau. Ouais. Qu'il puisse accueillir un joueur comme ça.
Et pas cramé, en plus.
Et attention, parce que, effectivement, s'il est vraiment opérationnel et qu'il arrive à bien se mettre dans l'équipe de Laurent Leniam, attention à Dijon, qui propose quelque chose de très cohérent, si en plus lui, c'est une vraie valeur ajoutée, quoi.
Allez, ça fait donc un partout entre Stephen et le reste du monde, on peut dire Fred et David, qui a déclaré: ce n'était pas une convocation, mais un rendez-vous.
Jordi Choulet?
Non.
Ce n'était pas une convocation, mais un rendez-vous, c'est un...
Ce n'est pas Jean-Denis Choulet.
Jimmy Verhoeven?
Non plus. Mais ça concerne cette affaire.
Alain Béral.
Non.
Laurent Villa.
Laurent Villa.
Franchement, c'est pas simple. Non.
Jean-Pierre Sutin.
J'ai vérifié auprès de Cyril Méjeanne, le rédacteur en chef du basket sur RMC, que vous connaissiez absolument et sans aucun doute cette l'auteur personne. De cette phrase. Mais c'est moi, personnellement, c'est la première fois que je voyais son nom, parce que c'est pas quelqu'un dont on parle, c'est ni un joueur.
Xavier Le Sperf, l'avocat de Jimmy Verhoeven.
Non, mais c'est un dirigeant. C'est un
Didier Ré, le président de.
Dominique Pau. Juillot.
Non.
Crawford Palmer.
Goran Radonjić.
Qui a pu dire
Goran
ça
Radonjić.
Non, qui a pu dire ça? Ce n'était pas une convocation, mais un rendez-vous. De quoi parlait-il? De quoi pouvait-il parler, à votre avis?
Bah ce n'était pas une convocation.
Ah, c'est Jean-Denis Choulet lui-même qui disait « Super match retour ».
Je dis Jean-Denis Choulet.
Non, ça concerne Jean-Denis Choulet, cette phrase.
Oui.
Donc, qui a pu le convoquer?
La commission de discipline.
Non, alors, c'est qui c'est?
La commission de discipline, c'est jeudi, mais aujourd'hui...
David.
Dominique Gigot.
Aujourd'hui, c'est son club.
Rémi Delpont.
C'est ça.
Rémi Delpont.
Je me rappelle plus, j'ai eu un trou.
Rémi Delpont.
J'ai eu un trou, c'est pour ça.
Rémi Delpont, le manager général de Chalon.
Bah, alors, je suis nul.
C'est intéressant parce que
ça me revenait plus du tout.
Moi, j'ai dit Juillot parce que d'accord. Là.
C'est intéressant parce que on a cru que c'était une sorte de comment dire, convocation un peu disciplinaire. Et son club dit juste non, on voulait savoir ce qui s'est passé exactement avec Jean-Denis Choulet. Donc s'il y a sanction, ce sera a priori pas par le biais du club, mais la commission de discipline de jeudi.
D'accord.
Tu trouves ça normal, David? Toi qui étais un peu le plus offensif sur Jean-Denis Choulet la semaine dernière, que son club ne le sanctionne pas, a priori.
J'ai pas été offensif sur Jean-Denis Choulet.
Ah, la veste réversible.
Non, je suis désolé.
Disons que tu condamnais l'incident dans son ensemble.
Non. J'ai toujours dit que Jean-Denis, il avait un côté. Quoi?
Emeline. C'est la veste à Emeline.
C'est quoi? Pourquoi la veste de Emeline? C'est quoi la private joke?
On se moquait d'Emeline Donguet qui
reprend sa veste.
Il y a 15 jours qu'il disait Briard, et c'est scandaleux, et une semaine après Briard, c'est très bien.
J'ai toujours dit, et je maintiens, que Jean-Denis Choulet, quand il y a défaite, n'est pas le meilleur perdant qui soit, qu'il a parfois du mal à gérer l'émotion de la défaite, et qu'il est un peu relou quand il garde la main.
Oui, non, mais tu disais aussi que ça te désespérait pour ton sport que de voir ce genre
non,
de scène.
Non, alors justement, je suis désolé, et je vais pas maintenant mettre une avoine à Jimmy Verhoeven, mais c'est pas Jean-Denis Choulet, en glissant trois mots à l'oreille et en tenant la main du coach adverse, qui fait du mal au sport. L'image que tout le monde retient, c'est quand Jimmy Verhoeven, et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que lui, il prendra plus Jimmy Verhoeven de la commission de discipline, c'est l'image, c'est Jimmy Verhoeven qui empoigne son
ça,
visage.
L'image choc, c'est ça.
Donc ça fait 2-1 pour David, pour Steve face à David et Fred. Question de rapidité, qui a déclaré? Question de rapidité, Fred, concentré.
C'est pour moi, tu sais, la rapidité.
Je veux retrouver le Cholet des années 2010.
Counter.
Ouais, c'est bon, c'est la bonne réponse. Herman Counter, donc, qui retrouve Cholet pour la troisième fois, son troisième passage.
C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures.
Ça fait donc 3-1. On va passer à l'histoire de la NBA, puisque ce soir, donc, on vous offre le bouquin, le petit quiz du basket, l'histoire de la NBA.
Donc, on est bien.
Donc, question à soir. 300 questions. Non, il y en a des très, très faciles. On va démarrer par la base. 300 questions pour jouer entre amis.
Il y a les choix multiples ou il faut
que c'est... Non, j'ai enlevé les choix multiples parce que je trouvais ça ridicule.
Tout à fait.
En tout cas, si vous voulez gagner ce petit bouquin très sympa, vous allez sur le compte Twitter de Buzzer. Première question, la base.
Michael Jordan.
De la base, t'as bien fait d'essayer parce que c'était presque.
Magic Johnson.
Attention, rapidité, qui est recordman du nombre de points marqués,
oui,
dans l'histoire de la NBA?
Karim Abdul-Jabbar, c'est bon.
Ah, sur une saison, t'as dit?
Pardon. Dans l'histoire.
L'histoire.
Avec combien de points, quelqu'un le sait?
27.
Monte.
45 000.
38 387. Alors, beaucoup plus difficile. En tout cas, là, il faut se creuser un peu les méninges. Quelle est la nationalité du premier choix de draft en 2006, messieurs?
Et Angleterre.
Là, j'ai des propositions à vous faire si vous calez.
Georgie, Nicolas Talisvili, non?
Pas du tout.
En 2006.
En 2006, ouais.
Le premier choix de la draft en 2006.
Alors, si je vous pose la question, c'est que c'est pas un Américain.
Hein. Oui, Léo Locandi.
Non. Letton.
Non.
Premier choix de la draft en 2006.
Si vous galérez trop, je vous donne une sélection de 4 nationalités.
Darko Milicic, serbe.
Non,
c'est 2003.
Ouais.
Ukrainien.
Non.
Bulgare, géorgien, tchèque.
Il joue encore? C'était une star NBA ou pas?
Franchement,
c'était un flop.
Israélien.
C'était un vrai flop, non.
Est-ce que c'est un Européen?
Oui.
Un vrai flop?
Ah, un flop. Il a fait sa petite carrière, sans problème.
Slovène, bosnien, croate.
Peut-être que tu
italien.
Vas dire qu'il y avait... Oui. Bravo.
Ah,
merci.
Comme oui, c'est ça. Toronto
Raptors. André Bargnani.
Exactement. Bargnani. Seul européen drafté en numéro 1 dans l'histoire de la NBA. Donc un deuxième point. Allez, on se dépêche parce que Vincent Collet nous attend. Alors, plus dur. Quelle nouveauté apparaît pour la saison 2005-2006 en NBA?
Quelle nouveauté? La raquette qui est peinte différemment.
Non.
L'arc de cercle?
Alors, c'est une question qui a rapport avec un événement historique de la NBA.
Pas le tir à 3 points, non, parce que ça existe depuis plus longtemps.
Par rapport à un événement historique. Enfin, un événement qui a marqué l'histoire de la NBA. Plutôt.
Ah, avec le sang, maintenant t'es obligé de sortir dès que tu saignes par rapport à Magic
Johnson. C'est pas ça.
C'est en 2006, je parle, 2005-2006.
2006.
Hein.
C'est un truc dans le jeu qui se passe dans le jeu.
Enfin, un truc qui s'est passé dans le jeu qui a eu pour incidence cette nouvelle règle en 2005-2006. Nouveauté, pas règle. C'est pas une règle dans le jeu. Hein.
C'est pas une règle dans le jeu.
Non.
Donc
c'est une règle en dehors du jeu.
Ouais, en plus, comprend.
Le nombre de temps morts. Ah, le dress code.
Excellent, Stephen Brun. Voilà, c'est là que je t'aime. Voilà. C'est là où tu fais la différence. C'est pas en disant regarde comme ça, comme un déchaîné.
Le dress code
suite à la bagarre entre Détroit et Indiana. Donc pour remettre, je suppose que c'était l'idée des règles très strictes de comportement et pour entourer tout ce qui concerne le folklore des matchs. Vous t'en voulez une dernière ou pas?
Allez, pour la route.
Alors ça, curieux, très curieux. En 78-79. Quelle franchise change de conférence?
Ah ouais.
Quelle franchise?
Milwaukee.
Les Minneapolis.
Non. Entre.
Charlotte.
Je vous donne les quatre. Détroit, Denver, Philadelphie ou Houston.
Houston.
Et ben c'est Détroit, figurez-vous, qui passe de l'Ouest à l'Est. Détroit a donc été dans la conférence Ouest. C'est la magie de la NBA.
Magnifique.
Si vous voulez gagner ce petit bouquin donc pour jouer dans vos soirées, dans vos petits apéros, par exemple, vous invitez des potes, vous aimez le basket, 3-4 questions comme ça. Ouais, n'invitez pas
si
Stephen
Brun. Si je t'invite à l'apéro, tu vas être content.
Et tout se passera bien. Allez, à tout de suite avec Vincent Collet sur RMC dans Buzzer Time.
RMC, 21h-22h, Buzzer Time, Pierre Dorian.
Avec la Dream Team, David Cosette, Stephen Brun, Frédéric Weiss, c'est la mi-temps en Ligue 2 entre Auxerre et Lorient, 0-0. Et tout de suite, invité exceptionnel en direct de Limoges où la France vient de battre la Bulgarie, le sélectionneur de l'équipe de France, Vincent Collet. Bonsoir Vincent.
Bonsoir.
Salut Vincent.
Bonsoir.
On va rappeler que l'équipe de France est d'ores et déjà qualifiée, même s'il restera deux matchs à disputer contre la Finlande et la République tchèque. Vous avez utilisé 28 joueurs, je crois, pour l'instant, sur ces qualifs. Est-ce que c'est pas un peu compliqué? Est-ce que c'est pas trop, tout simplement, Vincent, pour bien bosser?
On s'adapte de toute façon, et puis il faut pas se leurrer. Le format des fenêtres ne permet pas véritablement de bosser. On est toujours dans l'urgence. Simplement, la vraie satisfaction, c'est que quels que soient les joueurs qu'on ait pu utiliser, on a réussi à garder un état d'esprit qui nous a permis, malgré l'absence de joueurs majeurs, d'avoir un niveau suffisant pour gagner les matchs. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et je pense qu'à ce titre, la fenêtre qu'on vient de terminer était probablement la plus belle. Parce que là, vraiment, le groupe a vraiment affiché une détermination, un état d'esprit magnifique tout au long des 8 jours qu'on a passé ensemble.
Puisque je le rappelle, le nouveau calendrier ne permet pas aux joueurs NBA ni aux joueurs d'Euroleague de participer à ces matchs internationaux.
Et surtout, Vincent, quelle richesse du basket français. Ça montre vraiment l'incroyable réservoir de talent du basket français. Est-ce que ça aurait été dans les années 80, on n'aurait pas gagné un match et moi j'aurais été à deux doigts d'être en sélection.
C'est pas faux.
Je plaisante.
C'est pas faux, mais c'est ce qu'on se disait d'ailleurs ce matin en faisant le tour avec mes assistants. Et effectivement, on a la chance d'avoir un réservoir qui soit vraiment important. Voilà, on avait mis beaucoup de monde sur cette Team France et finalement il y en a beaucoup qui ont été sollicités. Mais ce qui fait plaisir, c'est la façon dont ils viennent, parce qu'il faut quand même rendre hommage, je pense, à tous ceux qui ont permis cette qualification, parce que pour la plupart, ils ne verront pas à la Coupe du Monde, puisque les joueurs NBA et Euroleague, pour certains et la plupart, vont réintégrer l'équipe de France. Donc c'est d'autant plus remarquable l'état d'esprit qu'ils ont affiché, parce qu'on sent qu'ils ont fait ça sans état d'âme, avec simplement à la volonté de qualifier cette équipe de France, de se battre pour le maillot bleu, mais aussi de prendre du plaisir. Et ça, c'est ce qui me ravit, parce que j'ai vu vraiment des joueurs qui se sont fait plaisir ensemble, à se passer la balle, à défendre ensemble, et ça c'était vraiment vraiment sympa.
Et pour le coup, c'est ça, Vincent, qui est vraiment intéressant. C'est quand on sait, on va pas se mentir, que l'Euro 2017, ça s'était pas super bien passé, où il y a quand même beaucoup de stars. Il manquait peut-être de joueurs qui sont prêts à apporter quelques minutes et à se déchirer sur le terrain. C'est peut-être des joueurs que tu as trouvé ou que tu vas trouver au cours de ces sélections.
Ça, on l'a dit depuis le début des fenêtres, effectivement. Et on tire surtout un certain nombre d'enseignements aussi par rapport justement à l'état d'esprit. On voit bien que, on sait très bien, voilà, on n'est pas naïf que pour aller à la Coupe du Monde et avoir de vraies ambitions, il nous faut du talent en plus, c'est indispensable. Mais par contre, l'idéal serait de ne pas avoir à choisir entre talent et état d'esprit. Voilà, il faut qu'on arrive à construire quasiment la même chose, mais avec quelques joueurs plus forts, des leaders qu'on connaît, bien sûr, hein, et qui seront là. Et si on y parvient, on pourra peut-être écrire une belle histoire l'été prochain.
Est-ce que vous avez juste une idée, Vincent Collet, de la proportion de ces joueurs-là qui seront à la Coupe du Monde? 28 ont été utilisés. Les joueurs, les plus forts de NBA et d'Euroleague seront là sans aucun doute. Et est-ce que vous avez déjà une idée du nombre de places qu'il y a à prendre pour ces 28 joueurs-là?
Pas tout à fait, non, parce que c'est un poteau.
L'ordre de grandeur.
Dans l'ordre de grandeur, peut-être que. On s'approchera. Est-ce que ça sera un tiers ou un quart? C'est cette marge-là. Je pense qu'il y en aura 3 ou 4, qui ont fait les fenêtres et qui seront dans l'équipe finale, parce que ça me paraît très important qu'autour des joueurs vedettes, on ait effectivement des joueurs qui soient vraiment des parfaits compléments, et puis surtout qui impulsent une fraîcheur, un état d'esprit qui soit sans faille, parce qu'on sait que les compétitions, on connaît le format de la Coupe du Monde avec déjà deux poules, avant d'aborder les quarts de finale. Donc on sait qu'il faut sur la durée avoir une stabilité dans la détermination et le mental. Et
Vincent, est-ce que moi, j'ai coutume de dire qu'au JO ou à la Coupe du Monde, il reste plus que 2 médailles à prendre, parce qu'on sait que les USA sont quasiment intouchables. Avec les autres nations, et notamment des nations émergentes, on peut penser à l'Australie, après tout dépendra de s'ils sont complets ou pas. Est-ce que tu as déjà un objectif clair dans ta tête?
Tu parles de la Coupe du Monde ou des JO, là?
La Coupe du Monde.
La Coupe du Monde 2019 en Chine l'an prochain.
Écoute, c'est un peu simple, mais pour l'instant, j'ai pas d'objectifs quantifiés. Bon, tout le monde sait que j'avais parlé dans le vestiaire, j'avais placé les choses très haut, mais au-delà de ça, c'est surtout construire l'équipe qu'on veut construire. Voilà. Et quand je dis ça, ça veut dire ne pas simplement assembler une succession de joueurs talentueux, mais vraiment avoir une équipe, voilà, comme lorsqu'on a eu le bonheur de faire des médailles plusieurs années pratiquement consécutives. On doit retrouver ça, on l'a un peu perdu, faut pas avoir peur de le dire, en 2017. Et donc l'objectif, c'est de refaire une équipe au sens noble du terme, voilà, avec bien sûr quelques très bons joueurs dont on dispose et qui doivent être les leaders de cette équipe, mais avec les vraies valeurs d'une équipe, celles qu'on a affichées ce soir ou vendredi par exemple.
T'es en train de dire que comme Deschamps, tu vas peut-être laisser des joueurs, des forts joueurs individuels sur le carreau.
Écoute, ça fait partie de la réflexion. Après, des forts joueurs, il ne faut pas exagérer. N'attendez pas non plus des révélations. Mais malgré tout, une fois qu'on a réfléchi sur les vrais leaders de cette équipe, derrière, on sait qu'il faut effectivement réfléchir à la complémentarité.
Juste un cas particulier, un seul, Vincent, je me parle directement.
Avec l'état d'esprit.
Parce que, juste un cas particulier, parce qu'il nous reste que 30 secondes, c'est celui de Frank Ntilikina, qui est aujourd'hui complètement à l'arrêt en NBA. C'est un joueur que vous connaissez bien, évidemment, pour l'avoir eu à Strasbourg. Est-ce qu'aujourd'hui, il fait toujours partie de votre projet? Et est-ce que vous comptez sur lui pour 2019?
En tout cas, il fait partie de la réflexion. Donc, il n'est pas sélectionné, bien entendu, mais il fait partie de la sélection, de la réflexion, pardon, sachant que, au-delà d'être en NBA, on connaît aussi ses capacités, justement, lui, à se fondre dans un collectif. Maintenant, si d'aventure il ne devait pas jouer toute la deuxième partie de saison, bien sûr que ça, que ça change cette réflexion. C'est pour ça qu'il est hors de question que je vous donne aujourd'hui des noms. Et des, on est dans l'observation, mais par contre, les enseignements qu'on a tirés de toutes ces fenêtres, on a bien l'intention de les utiliser pour construire la plus forte équipe possible. Et plus forte, c'est pas forcément l'assemblage de tous les meilleurs joueurs.
Voilà. Merci beaucoup Vincent Collet.
Merci Vincent, félicitations
merci.
Encore.
Merci.
Merci.
L'équipe de France donc est qualifiée pour la Coupe du Monde 2019. L'after arrive tout de suite avec Nicolas Villas. Et je vous rappelle qu'on suivra également la deuxième mi-temps en Ligue 2 entre Auxerre et Lorient. 0-0 à la mi-temps. Messieurs, merci beaucoup.
Merci.
À la semaine prochaine.
Merci Pierrot, à la semaine prochaine. C'était un bonheur.
RMC Buzzer Time.